Mon mantra dans la vie, c'est entre le rêve et la réalité, c'est la seule porte qui les sépare, c'est le courage. Mais surtout, vivre ses rêves éveillés, ça, c'est, il faut le faire. Il faut y aller, quoi. Je m'appelle Pierre Marcolini, directeur de création de la maison Pierre Marcolini.
Chaque année, Fourchette réunit de grands chefs qui offrent une expérience gastronomique dans un lieu spécial à Gand. J'ai eu de la chance de réaliser un portrait de vidéo des chefs participants de cette année. Vous pouvez les voir sur le site ou sur Instagram de Fourchette. Et pour le podcast, je leur ai posé quelques questions sur l'emplacement de leur entreprise ou de leur restaurant. Qui ils ont vraiment en tant que personne et en tant que professionnel? Quelle est leur inspiration ou leur philosophie? Ce que l'équipe représente pour eux et comment ils envisagent l'avenir? Et à la fin, ce qu'ils pensent de Fourchette? Je suis Sabine Houthouse et votre hôte. Mais cette fois-ci, je garderai le silence et laisserai la parole au chef lui-même. Écoutez et savourez.
Que j'ai en mémoire en 1995 et après avoir gagné la Coupe du Monde de pâtisserie, ma première boutique, en fait, c'était même pas une boutique, c'était un petit espace de 30 mètres carrés. Il faut savoir que j'ai fait plus de, je pense en Belgique, plus d'une trentaine de concours. J'étais Monsieur Concours à l'époque. J'ai fait le Mandarin Napoléon, qui est un concours prestigieux en cuisine et en pâtisserie, que j'ai gagné au national et à l'international. J'ai fait le fonds Arthur Troc, j'ai fait la Cabosse d'or, le mérite artistique, des concours à Tokyo, des concours au Danemark, des démonstrations, enfin bref. Et en 95, quand j'ai ouvert mon atelier, je faisais ce qu'on appelle du private label. Donc je travaillais pour et à la fois des pâtissiers, à la fois des chocolatiers, qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas les compétences et qui se disaient bah, « Tiens, je veux agrandir mon assortiment. » Et donc, je fabriquais pour eux. Ça, c'était les 30 mètres carrés. À un moment donné, dans une entreprise, on dit toujours qu'il y a des phrases qui restent. Tu vois, ce qu'on appelle des « sentences », tu vois, des phrases qui marquent une entreprise, des mots. Et à un moment donné, j'ai mon beau-père qui vient visiter le petit 30 mètres carrés que j'avais. Et il y a une porte, un peu comme ici, tu vois. Une porte qui donne sur 30 mètres carrés supplémentaires. Et là, je le regarde, je lui dis, voilà, j'ai la clé pour aller, pour agrandir. Je passe du simple au double, tu vois. Je double la surface. Et il me regarde et il me dit, cette phrase extraordinaire, il me dit, est-ce que tu n'as pas vu un peu trop grand? Parce qu'il avait peur. Il était un peu surpris et il est malheureusement décédé et aujourd'hui on est à en 2023 28 ans plus tard on est presque à 4000 mètres carrés ici entre Kreinem, on est passé à Aaron, donc en région bruxelloise. On a plus de 400 personnes qui travaillent pour nous dans le groupe. Donc c'est une sublime aventure et il y a des moments où je me dis, tiens, ce qu'il aurait pensé, tu vois, si on te dit ça un jour, à un moment donné, si tu as l'occasion de pouvoir dîner un jour avec quelqu'un avec qui tu dînerais. Et je pense que je dînerais ou je déjeunerais avec lui en lui disant, voilà, bon pas, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a réalisé, ce projet absolument incroyable de faire bouger le monde du chocolat en Belgique, de révolutionner un petit peu le monde du chocolat, de faire des chocolats qui étaient plus petits, de faire des chocolats qui étaient moins sucrés, des chocolats qui étaient avec des goûts un petit peu particuliers. Tu sais, on est tout premier, je te montrerai un journal qui s'appelait le Marcolini News de 1997, où on faisait déjà des chocolats à base de jasmin, des chocolats à base de thé, des chocolats à base de cannelle, etc. etc. Alors qu'en Belgique, on est toujours avec une praline, tu sais, qui est assez grosse, qui fait 15-20 grammes. C'est un choix. Mais je me dis toujours, c'est assez drôle de voir que les habitudes alimentaires ont changé. Tu fais beaucoup d'interviews des chefs. Et quand tu vois aujourd'hui les interviews des chefs, qu'est-ce qu'ils font? Il y a soit le menu conventionnel, entrée, plat, dessert, mais tu sens que de plus en plus, les chefs ont envie de jouer, de s'éclater, d'être créatifs. Et tu vois qu'ils sont là en disant, on va faire des petites portions pour que les gens puissent picorer, s'aventurer, découvrir des saveurs, des textures. Et moi, c'est ce que je veux faire dans le monde du chocolat, comme on le met dans le monde de la pâtisserie. Avant, on faisait des gâteaux qui faisaient par personne 130 grammes. Aujourd'hui, si je demande à Yos quel est le poids de ces gâteaux, il va me dire, Pierre, 80 grammes. Et dans le monde du chocolat belge, ce qui est assez étonnant, sauf la nouvelle génération, mais les anciennes marques sont toujours restées avec des pralines qui font 15-20 grammes, un peu grosses comme ça. Et quand on est arrivé en 95 et qu'on a commencé à faire des chocolats qui étaient, parce que j'avais cette sensibilité-là, plus petit, tout le monde nous a regardé en disant, t'as rien, les gars, ça va pas marcher, ça. Voilà, 28 ans plus tard, une équipe extraordinaire qui est là, qui me suit, mais surtout beaucoup de clients fidèles, des clients qui ont fait confiance à la marque et qui ont dit, on a envie de goûter autre chose. Dans tous les domaines, il faut une passion. C'est des métiers qui sont excessivement durs. Je pense que le métier de cuisinier, le métier de pâtissier, le métier de chocolatier, c'est compliqué. Pourquoi ? C'est compliqué parce qu'on est dans une société où on valorise, on parle beaucoup de loisirs, de cadeaux, de gifts, on parle de dépenser. Mais on parle très très peu de la valeur du travail. On parle de acheter ça, les vacances par exemple, tu vois. Et c'est des métiers où quand les gens sont au repos, tu vas au restaurant le samedi après-midi, le dimanche, le soir. Dans une vie sociale, c'est très compliqué. Le pâtissier, à 6h du matin ou à 5h du matin, il doit se lever. Moi, quand c'est la Noël, c'est pas un moment agréable dans la mesure où je sais que ça va être une charge de travail énorme. Je suis très content d'arriver à la Noël, mais je sais que pour les équipes, ça va être dur. Et alors que pour le commun des mortels, pour l'ensemble des gens, la Noël, c'est les cadeaux, c'est la famille, etc. Donc, on est toujours un peu, ce qu'on appelle en français, un peu en marge de ce moment-là. C'est-à-dire que quand la société parle de loisirs, et que les gens vont dépenser, ils vont les dépenser chez nous, leur argent. Et c'est pour ça que je dis, c'est des métiers qui demandent beaucoup de courage. Si on n'a pas ce courage-là et qu'on n'a pas la passion, ça va être compliqué de le faire. La troisième chose que je donne comme conseil, donc courage, passion, et je pense la qualité des ingrédients. Moi, je pense fondamentalement que c'est Joël Robuchon qui disait « Tu ne sais pas faire la bonne cuisine si tu n'as pas un bon produit. » Et dans le monde du chocolat, c'est la même chose. Ici, on est occupé à regarder 7 sortes de vanille, 4 sortes de noisettes, les fèves de cacao viennent du monde entier. On essaie de prendre vraiment la meilleure qualité par rapport à ça. Parce que ça va influencer les saveurs de cacao. Avant, il n'y avait pas autant de contraintes qu'on avait. C'est-à-dire que si je regarde après la Deuxième Guerre mondiale, entre les années 50 jusque dans les années 2000, on ne parlait pas de vegan, on ne parlait pas des colorants, on ne parlait pas de sustainability, on parlait juste de faire des bons chocolats. Quand tu allais voir ta banque et tu disais « Écoute, je veux ouvrir un magasin », il n'y avait pas la crise financière de 2008. Donc, l'argent, on avait des taux d'intérêt qui étaient à zéro. Et donc, effectivement, c'était plus facile de faire du business et de lancer son entreprise. Maintenant, c'est difficile de trouver des jeunes. C'est très compliqué. Les écoles, il y en a de moins en moins. C'est plus compliqué aussi. Donc, je pense que ce qu'il faut, et je reste convaincu de ça, il faut pouvoir calculer convenablement. Voilà, je disais, faire du chocolat pour penser faire du business, je pense que ça ne marchera pas. La première façon, et les clients le savent, je pense qu'ils sont convaincus de ça. Ils savent quand tu lances un produit un peu marketing, fake, etc. Je crois que c'est comme dans tout. La première chose, c'est qu'ils doivent sentir qu'à un moment donné, tu fais les choses avec passion. À partir du moment où tu fais les choses avec passion, le business vient après. Si tu es bien entouré, tu sais développer. Il y a simplement une porte, et la porte, c'est le courage. C'est la volonté. Tu vois, comme on dit en anglais, « do it », tu peux le faire. « You can », tu vas. Et c'est une mentalité plutôt anglo-saxonne. C'est pas, pour être honnête, c'est peut-être un peu moins francophone. je fais mon mea culpa et l'autodérision, mais c'est vrai. C'est pour ça que parfois, les Flamands me regardent en disant « Mais Pierre, mais tu es partout !» J'ai Dominique Persson qui me dit « Mais enfin, Pierre, tu es au Japon, tu es quasiment comme un dieu, et les gens viennent te voir pendant 2 heures. » Mais quand tu amènes, et c'est plus une notion que j'ai éduquée comme valeur de dans ma vie, c'est plus une éducation que j'ai eue de ma maman, qui est de dire « Si tu veux réussir, Pierre, il n'y a pas 36 façons, il faut bosser, quoi. » Il y a cette volonté-là, quoi. Qu'on est unique et qu'on est différent. En fait, je me suis vraiment posé la question en me disant, mais quand je vois les milliers de chocolatiers qui sont en Belgique, quelle est ma différence par rapport à ça? D'abord, la première réflexion, c'était vraiment celle-ci, c'était de me dire, mais au fond, est-ce que le monde du chocolat a toujours été comme ça? Et quand tu regardes l'histoire du chocolat belge, tu te rends compte que pas du tout. Au début du XXe siècle, tous les chocolatiers partaient à partir de la fève de cacao. Tu achetais des fèves de cacao comme tu achetais des amandes, comme tu achetais des noisettes, et les chocolatiers faisaient leur chocolat comme ils faisaient leur praliné, comme ils faisaient un ensemble de choses. Ça, c'est au début du XXe siècle. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle une classe moyenne qui a eu plus d'argent. Mais le personnel coûtait plus cher. Et donc, quand tu allais voir ton chocolatier, que tu allais voir une fois par mois, tu lui disais « Écoute, viens chercher un morceau de chocolat ». À partir du moment où tu as plus d'argent, c'est comme toujours. Comme quand tu vas au restaurant, si tu vas une fois par an au restaurant, tu es très content du menu. Mais si tu y vas toutes les semaines, tu demandes qu'on change le menu tout le temps. Et donc, ça a été la même chose. Et donc, ça a été un boulevard pour les sociétés qui font ce qu'on appelle des produits semi-finis. Barry Callebaut, par exemple, Belgolade, etc. Qui ont dit aux chocolatiers, au fond, concentre-toi sur la partie design, assemblage, recettes, les ganaches, etc. Mais la base du chocolat, on va la faire. Ce qu'on faisait auparavant, j'ai des gravures encore, je peux te montrer, c'est un antiquaire qui m'a trouvé ça, des vieilles gravures qui montrent les grandes chocolateries belges à l'époque. Je ne parle pas de la qualité, je parle de le fait de ne pas faire son propre chocolat, donc c'est toute la notion. Et je pense qu'en néerlandais, on doit avoir la même notion. C'est la différence entre le chocolatier, quand tu regardes la définition dans le dictionnaire, et c'est intéressant de voir dans le dictionnaire néerlandophone, si, regarde un peu, ça vaudrait la peine, chocolatier, qu'est-ce qu'il est marqué? Si je reprends, par exemple, le petit Robert, chocolatier, il est marqué celui qui fabrique son chocolat. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que chocolatier, c'est celui qui travaille du chocolat. C'est pas la même chose, hein? Ça m'amène à quoi? Ça m'amène que quand j'ai décidé de fabriquer mon propre chocolat, ben un, il n'y a pas d'école. Il n'y a plus d'école pour ça. Tu peux aller au Seria, au Covi. Alors maintenant, ils font des petites formations, mais j'ai commencé à faire le Bean to Bar en 2000. Ça fait 23 ans hein, que je fais ça. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, tout le monde m'a dit « Mais t'es fou, les gens ne s'intéressent pas, c'est pas ça le problème, il faut que tu fasses des bonnes ganaches. » Je dis « Non, parce que le profil aromatique, la base aromatique, c'est comme si je te disais « L'ensemble des restaurateurs vont travailler avec des fonds de veau de, pour faire leur sauce qui sont du même endroit. » Tu vas avoir sans doute quelque chose de qualitatif, mais tu vas avoir quelque chose qui va être similaire partout. Et je crois, moi, que la grande richesse d'un pays, et ce qui a fait la réputation du chocolat belge à l'époque, on est bien d'accord que ce n'est pas les cacaoyers puisque ça ne pousse pas en Belgique. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Et ce savoir-faire, si à partir du moment où il est standardisé, je pense qu'il est de moins en moins unique. Parce qu'une entreprise, pour être très transparent, mais une entreprise comme Barry Callebaut ne fait pas ses profits sur la Belgique. Elle fait ses profits au niveau mondial. Et donc, la connaissance qu'elle développe dans ses instituts, dans son collège, qu'elle le donne aux Belges, à l'Europe de l'Est, à l'Europe de l'Ouest, à des pays asiatiques, aux États-Unis, c'est les mêmes. Et je crois qu'au plus le chocolatier a créé son indépendance, au plus il va être unique. Quand je vois aujourd'hui les révolutions qu'il y a dans le monde alimentaire, dans le café, il n'y a jamais eu autant de baristas et de nouveautés, et tu peux avoir tous les types de cafés. C'est extraordinaire, ça. Quand tu vois aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, parce qu'on est belge, les microbrasseries. Regarde les qualités de microbrasseries que tu as. Tu as des brasseries incroyables. Et donc, tu as des brasseries, et c'est ça qui a fait toute la diversité. Quand tu regardes donc, le café, la bière, le thé, c'est pareil. On parle de grands crus dans les thés, etc. etc. On n'a jamais eu autant de choix de possibles de thé. Et je pense que si... et la nouvelle génération s'est lancée dans ce mouvement Binto Bar. Tu vois, des gens comme Maïn Gbeki, comme Cédric de Thé, etc. etc. On sent que cette nouvelle génération a dit, mais au fond, maintenant, quand moi je te dis, j'ai commencé à 23 ans, tu allais sur Internet, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de procédé, rien. Il a fallu vraiment faire des essais, des erreurs, essayer, pleurer, avoir des doutes, puis dire, allez, on y va, on peut le faire, on y arrive. Et ma grande fierté, c'est ça. J'étais à Shanghai, on m'a dit, mais par rapport à Neo, c'est quoi votre différence? Ben, j'ai ma différence, mais quand tu dis ça pour des pays asiatiques qui découvrent, tu dis... Ben, par rapport à Neos, moi, je fabrique mon chocolat. Neos achète du chocolat chez Barry Callebaut, peut-être la recette. Mais alors, dans ces conditions, tu peux aussi acheter le praliné, tu peux acheter aussi telle et telle chose. Ce n'est pas une critique, ils font ce qu'ils veulent, chacun a sa politique. Mais je peux regarder les gens en face et dire, voilà une tablette, ça coûte 9 euros. Les gens qui sont de l'autre côté de la planète, ils sont très, très bien payés. On est dans la sustainability. On n'a pas d'enfants qui travaillent dans les plantations. Ce sont des anciens cacaoyers. On travaille avec 10 plantations en direct par rapport à ça. Puis quand on ramène ici, tu vas voir, hein, tu verras les installations, c'est 3 jours pour faire une couverture de chocolat. Mais elle a quelque chose de différent. Et je veux avoir ces différences-là. Pour moi, c'est la marque de fabrique, quoi. Je suis quelqu'un qui adore rire. J'adore... d'abord, j'ai toujours ce sentiment de vivre un rêve éveillé. Pour moi, je suis dans ma passion. Qui je suis? Alors d'abord, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'émerveillement. L'émerveillement, il y a un grand écrivain suisse, Nicolas Bouvier, qui disait quelle est la différence? L'émerveillement, est-ce que c'est une question d'état d'esprit ou est-ce que c'est une question d'âge? Parce que les enfants sont dans l'émerveillement. Et moi, j'aime bien l'idée que c'est une question d'état d'esprit. Je suis toujours émerveillé de me dire le fait de vivre sa passion, le fait de voyager, le fait de pouvoir ouvrir des boutiques à travers le monde. Moi, je me souviens quand j'ai ouvert ma première boutique au Japon, à Ginza, le 6 décembre, le jour de Saint-Nicolas, en 2001. Eh bien, j'étais en plein cœur de Ginza. C'était génial, grande ouverture. Mais tu sais, ce qui était le plus extraordinaire, c'est le 7 décembre. Le 7 décembre, j'étais dans ce carrefour que tout le monde connaît, le fameux carrefour du côté du plein cœur de Ginza. Et je suis là, je suis assis, et je prends un petit café à la terrasse, et je vois un sac Pierre Marcolini. Et je dis, ça c'est inimaginable. Comment je pense qu'on dit en flamand, Manical Leaf, tu vois. Mais c'était vraiment ça. C'est pas de l'orgueil, tu vois. C'est même un peu d'humilité, mais de la fierté. De la fierté humble, en se disant, waouh, c'était le début d'un chemin, hein, ça veut pas, il faut encore tout faire. Mais c'était vraiment ça. Et moi, je suis toujours dans cet émerveillement-là. 25 ans plus tard, je suis encore, quand je vais quelque part dans une plantation, quand je reviens de Shanghai, quand je retourne à Tokyo, mais même quand je suis à Bruxelles ou que je suis à Paris ou que je suis à Anvers, j'aime tellement ce que je fais et je suis tellement fier de ce qu'on a réussi à faire avec les équipes. Une des grandes fiertés de cette maison, c'est le fait d'avoir amené du talent, amener les gens qui ont du talent à venir travailler ensemble dans un projet commun. Donc, qui je suis émerveillé de ce qui se passe. Je pense que je suis aussi généreux. Les gens te le diront. J'aime bien partager. Je travaille beaucoup. Je suis exigeant avec les gens. Mais je pense que je suis peut-être un peu plus calme qu'avant. Avant, j'étais une boule de nerfs. Je pouvais monter dans les tours un peu soupe au lait, comme on dit, tu vois. Me fâcher, puis le 2 heures après, j'avais oublié, et j'y allais, on continue. Ben, y a l'âge, hein, et je relativise maintenant. Y a ça, j'aime beaucoup les gens. D'ailleurs, c'est bien simple, avec mon épouse, on refuse d'aller vivre dans la campagne. Moi, j'adore vivre en ville, j'adore les gens. Je suis dans un quartier, quel quartier d'Ixelles. tu sais, je suis à la fois, je suis dans la diversité, j'adore, parce que j'ai à côté de moi le quartier de Matongé, qui est le quartier africain de Ixelles. Et ce brassage de gens, de cultures, j'aime ça. J'aime bien découvrir la culture de l'autre. L'équipe, pour moi, c'est d'abord une grande famille. Un projet d'épanouissement personnel pour chacun, qui ont trouvé dans, au sein de la maison Pierre Marcolini, ce projet, c'est de dire est-ce qu'on peut faire un chocolat différent, tant au niveau régional, au niveau national, mais surtout à l'international. C'est un projet qui les rend fiers. C'est un projet qui est dur, parce que chacun travaille, mais c'est un projet qui amène une satisfaction personnelle, un épanouissement personnel. Vous savez, quand vous êtes dans des grands groupes, que vous levez le matin ou vous ne levez pas le matin, ça ne changera pas la vie d'un grand groupe. Mais ici, chaque personne est indispensable. Et ce qui est génial, c'est que chacun en est fier. L'organisation de la maison Marcolini, c'est assez simple. Hein. Il y a une CEO donc, qui est juste ici à côté, donc Jeanne Guillet, qui est en charge de quasiment toute la grande partie opérationnelle de la maison Marcolini. C'est la patronne. Et je suis très content d'abord que ce soit elle et puis que ce soit une femme en plus. J'aime beaucoup cette manière de travailler. Il y a un comité de direction avec un directeur marketing, enfin une directrice marketing, il y a une directrice du B2B, il y a un directeur financier, ressources humaines. Et puis en production, là il y a un directeur de ce qu'on appelle la supply chain, donc qui est en charge de tout ce qui est partie logistique et atelier. Donc planification, etc. Et il y a un chef d'atelier qui est là depuis 15 ans, qui s'appelle Laurent Sounen, qui est vraiment mon bras droit et un peu mon souffre-douleur, un peu le pauvre. Il dit toujours que les rêves de Pierre, c'est le début de mes cauchemars. Hein. Je pense que tous les chefs, c'est un peu comme moi. Tu arrives le matin, tu fais « Les gars, j'ai une bonne idée, on y va, on va faire des pralines au whisky japonais. » Et puis tout le monde travaille, on fait le recherche et développement, etc. Et une semaine plus tard, tu fais, tu comptes faire, on va peut-être faire les whisky irlandais aussi. Et tu changes d'avis tout le temps, quoi. Parce que tu veux évoluer, tu es jamais content d'eux. Moi, je suis, depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années, je suis en charge de tout ce qui est la partie création. Donc, je suis directeur de création. Donc, tout ce qui est nouveauté, nouvelle collection. On fait quand même presque 7 collections par an ici. La Noël, Pâques, le Mooncake Festival, la Saint-Valentin japonaise, la fête du Ramadan, etc. etc. Donc, tout le temps. Et j'ai une équipe avec moi de recherche et développement qui travaille avec moi et avec Laurent. Et je fais le métier que j'adore. Quoi. Et je voyage beaucoup pour... je fais plus de 150 000 km pour aller voir des produits exceptionnels. C'est pas trop difficile à un moment donné quand je veux chercher de l'inspiration. Les voyages, c'est inspirant. Aller à la rencontre des gens, c'est inspirant. Moi, ma plus grande source d'inspiration, une de mes plus grandes sources, c'est mes amis restaurateurs. Ce sont des gens qui sont excessivement créatifs. J'adore les chefs de cuisine parce que c'est des gens qui t'amènent dans un univers qui est le leur, avec des saveurs différentes, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. J'adore ça. J'ai beaucoup de respect pour les chefs de cuisine parce que je trouve qu'ils ont un courage incroyable dans un contexte qui est toujours très très difficile. Quoi. Je dis toujours que c'est le métier de la cuisine, c'est comme le métier de funambule. Tu sais, le funambule, c'est sur le ligne comme ça, c'est l'équilibre. Pourquoi ? Parce que tes produits ne sont jamais les mêmes. Tu peux avoir un poisson qui est hyper frais, le lendemain, tu n'as pas le même poisson, comment tu fais ? Donc, un, la fragilité de la nature. Deux, les équipes. Tu réserves dans un restaurant une semaine à l'avance et le restaurateur il accepte ben il accepte 30 couverts et il a une brigade peut-être de 5 ou de 6, mais s'il y a deux malades, il va pas téléphoner au client en disant vous pouvez pas venir, et il doit se débrouiller avec 4 personnes. Deuxième problème, donc c'est toujours un peu touchy, tu vois. Troisième souci, ça se passe pas bien à la maison, tu arrives de mauvaise humeur au restaurant. Tu n'es pas prêt à recevoir ce qu'il est prêt à te donner. Tu n'es pas de bonne humeur. Ouais, non, c'est pas bon. Et parfois, c'est juste qu'une question de bonne ou de mauvaise humeur. Et le restaurateur, il a 2 heures pour faire sa prestation, pour que ce soit extraordinaire dans l'assiette. Et c'est là où je dis, quel métier difficile. Quel métier difficile. Je suis très admiratif pour ça. Quand je vois dans les réseaux sociaux, tu vois, social media, où tu as des gens sur Twitter qui... Mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et notre métier aussi, hein, c'est pas facile. Hein. Tu as des matières premières qui sont difficiles. Aujourd'hui, tu as la crise de l'énergie. Avant ça, tu as eu 2 ans de Covid. Tu as des problèmes avec parfois le personnel à recruter. Mais donc, c'est un métier, le métier de chocolatier. Il faut se renouveler tout le temps. La législation change quand même très vite. Maintenant, c'est une législation européenne aussi. Quand tu fais de l'export, tu dois aussi voir comment ça se passe, etc. Donc, c'est pas simple, mais on continue. Alors, ce que je sens quand je fais une création, c'est beaucoup de bonheur parce que le métier de chocolatier, c'est évidemment de faire des chocolats. Mais le but final, c'est de créer une émotion. On cherche une émotion. On cherche à un moment donné que les gens font « waouh !» Comme on dit en Flandre, « it's lekker !» Et moi, je dis toujours, de la création, tu peux faire. C'est pas difficile. Tu vois, demain matin, je veux faire un buzz. Je dis « allez, hop, je fais des pralines aux matches. » C'est absolument mauvais. Mais tu dis demain matin à l'ensemble de la presse, voilà, Pierre Marcolini, nouvelle création, Pralino Matches. Tu vas avoir beaucoup de journal, tu vas avoir beaucoup de presse qui va venir. Pierre, il est fou, ça va pas, enfin, pourquoi tu fais ça? Ah bon, c'est intéressant, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est peut-être bon, mais at the end of the day, à la fin, c'est pour ça que je dis créer, c'est pas trop difficile. Ce qui est le plus difficile, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes équipes, un, c'est une émotion. Et comment tu vois l'émotion? Il y a un truc très simple. Tu prends la praline, quand tu manges le dessert, et quand tu as fini, tu fais « je peux encore en avoir un ». Ça, hein, ce « je peux encore en avoir un », tu vois, ou à un moment donné, tu fais « il reste encore un morceau quelque part, je peux regoûter ça, parce que ça, c'est bon hein. ». Je me souviens, j'étais chez Willem Hill, tu vois, et j'ai un Willem, et puis à un moment donné, c'était avec mon copain René. Et on découvre Willem. C'est un grand gaillard comme ça, fabuleux, beaucoup de générosité. Et il nous dit, ça, c'est la bisque aux crevettes grises. Avec cette petite crème comme ça, tu vois. Et il me dit, Pierre, tu as un morceau de pain. Il le fait lui-même, c'est normal, c'est un ancien boulanger. Il y a le beurre et il y a des crevettes fraîches qui sont là. Et il me dit, Pierre, tu prends... Le pain, tu mets un peu de beurre dessus. Et il me dit, tu vois, la bisque de crevette grise, il dit, tu as le pain qui est un peu cuit comme ça, avec une croûte, et tu sens que c'est un peu caramel comme ça. Hein. Et il dit, le beurre vraiment du pays, tu mets, tu trempes ça dans la bisque, et tu mords, et il y a ce mot fabuleux que j'adore, qui est typiquement belge, et il faut que ça dégouline comme ça. Et tu vois ça. Hein, et moi, mon souvenir, c'est ça. Mais surtout, mon souvenir, c'est que quand j'avais terminé, j'ai fait « Ah, j'en prendrai bien encore une deuxième. » Ça, c'est réussi. Parce que d'abord, tu sens qu'il y a une âme dans le plat. Il y a une âme. Tu vois, soul, c'est dedans. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait cette gourmandise, le péché de gourmandise, à un moment donné de dire, je ne sais même pas pourquoi c'est un péché, hein, mais l'Église dit que c'est un péché, mais moi je ne crois pas que c'est un péché, mais il faut que cette gourmandise soit là, tu vois ce côté un peu judéo-chrétien où tu dis, j'espère qu'il y a un deuxième chocolat, dit. C'est tellement bon ça, tu vois quand tu as terminé le paquet, tu dis c'est pas possible, c'est déjà fini, ça c'est réussi, pour moi, c'est pas tout le show à faire des pralines sophistiquées, c'est le truc qui marche, hein, c'est tu prends et tu en prends une deuxième. Le chocolat, à un moment donné, c'est le souvenir que tu vas garder. Quel est le futur de la chocolaterie gastronomique, on va appeler ça comme ça. Je pense qu'il va y avoir 2 lignes. De plus en plus, on sent que le mouvement Bintoubar prend de l'intérêt pour les jeunes. Les jeunes veulent aller, comme je l'ai dit, hein, dans les révolutions, on regarde les néo-boulangers qui veulent retravailler à partir de farine, de levain et tout ce qui s'ensuit. Ça, il y a. Les pâtissiers qui réduisent leurs cartes et qui font quelques desserts, mais top. On fait de click and collect pour avoir des produits hyper frais, plus des grands comptoirs. Ouf, tu te dis, mais ça, c'est pas le gâteau que j'ai vu hier qui est toujours là. C'est fini ces grandes cartes. Et dans la restauration, c'est la même chose, quoi. On se concentre sur les produits du marché. Et je crois que dans le monde du chocolat, on va aussi avoir ça. C'est vraiment se concentrer sur des produits de niche. Et on va avoir deux lignes. On va avoir ceux qui achètent leur couverture de chocolat, mais qui seront aussi dans les grandes surfaces, etc., parce qu'il n'y aura pas de différence. Et il va y avoir la ligne, je pense, où tu vas avoir du chocolat gastronomique, où ça va être des chocolats qui vont être des grands crus de fèves de cacao excessivement rares, un praliné incroyable avec de la pistache de Alep, par exemple. Je crois qu'il va y avoir ça. Il va y avoir cette ligne-là où les artisans vont plus se démarquer de grands industriels. Et tant mieux, je pense que ce sera plus cher, c'est possible. Mais je crois que les gens ont envie maintenant, en tout cas la nouvelle génération a envie de se faire plaisir. Mais en disant, il faut que ce soit vrai, authentique. Il faut que ce soit transparent. Quand tu dis quelque chose, il faut que ce soit là. Et on veut savoir d'où ça vient. Il faut que ce soit sustainability. Il faut effectivement qu'on protège la planète. Hein, donc, pas de déchets inutiles. Et effectivement, je crois que ces jeunes sont prêts à rentrer dans ça. Oui, je pense aussi que voilà les gens, tout ce qui est tu vois les grandes créations avec des couleurs dans tous les sens, etc. Il faut que ce soit plus naturel aussi. Ouais.
Et c'est la même chose dans la gastronomie, n'est-ce pas, dans
les restaurants. Oui, je crois que dans le monde de la gastronomie, on sent que les cartes sont plus réduites. On sent que les gens ont envie de passer un moment d'émotion à table, mais pas forcément 5 heures à table, quoi. Tu vois ? Je pense que les gens ont envie que ce soit un peu plus convivial. On sent hein, très bien que les restaurants 3 étoiles, 2 étoiles, il y a une ambiance un peu plus débridée, on rigole plus. Avant, t'avais le cérémonial à la française. Et alors, tu sais, t'avais des choses comme... C'est terrible, ça. Tu découvres encore ça de temps en temps parce qu'on pense que les clients, parfois, sont ce qu'on appelle amnésiques. Parce que tu as déjà remarqué ça. Quand tu vas dans un grand restaurant chic comme ça, on te dit « Monsieur a commandé la salade !» Au cas où tu as oublié. Non, je me souviens très bien ce que j'ai commandé, tu vois.
Il y a des chefs qui veulent rester avec ce mouvement classique.
Oui, je pense qu'il y a des chefs qui restent effectivement avec ça. Et je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Mais heureusement pour nous, ce n'est plus la norme. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu as ça, mais tu as autre chose aussi. Et si tu as envie, à un moment donné, de dire... Parce que c'est vrai que ça peut être, à un moment donné, ce décorum, ces grandes nappes blanches, le service où les gens sont... Il y a 4 personnes autour de toi, et dès que tu as posé ton couvert, on t'en donne un autre, etc., etc. Why not, quoi ? De temps en temps, tu peux te faire plaisir. Et tu as envie d'être chouchouté, comme on dit, tu vois ? Et puis, tu as des autres où tu as envie d'être balancé, tu vois, où tu aimes bien un peu, où tu discutes et tu dis « Ah, mais tiens, on va faire ça », il y a un côté un peu funky, quoi. Et je pense que ce qui est génial, c'est le choix. J'ai envie de dire aux jeunes, s'ils ont envie d'être chocolatier ou pâtissier ou chef, allez-y. Si vous vous lancez dans ça, il faut vraiment que vous aimiez ce métier. Faites d'abord un stage pour voir si vraiment vous avez envie. Et la deuxième chose... Partez, voyagez, prenez 5 ans, même 10 ans avant de vous installer. Parce qu'après, c'est plus compliqué, c'est difficile. Mais allez en Asie, allez en Amérique du Sud, allez aux États-Unis, sortez de l'Europe, bougez. En Flandre, davantage, ils maîtrisent la langue, ils parlent assez vite anglais, etc. J'ai envie de dire, allez voir ce qui se passe ailleurs. Mon ambition personnelle aujourd'hui, je voudrais une fois créer une école. Et je le ferai. J'ai envie d'une école du savoir-faire, une école de l'excellence. Je ne sais pas comment ça se passe en Flandre, mais du côté francophone, on a peur de parler d'excellence. Hein. Ah, mais ça va coûter cher. C'est non, je pense que l'excellence, c'est la qualité des produits, la qualité des enseignants, de faire un cursus qui soit fort, quoi, et qui montre que le chocolat, ça bouge tout le temps et que tu as envie toujours de t'upgrader.
Dernière question, chef. Que pensez-vous de Fourchette?
Alors, Fourchette, pour moi, c'est une grande claque. C'est une grande claque. Quand Yos m'a parlé de ça, il m'a dit « Ah, il faut que tu viennes, Fourchette, tu vas voir. » Comme on n'était pas connus en Flandre, ou très peu, on a dit « Écoute, on va venir, on va voir. » Il y avait d'abord beaucoup de créations. Je suis tombé sur des chefs incroyables. Beaucoup de discussions avec eux, interactions. D'abord, c'est un échange avec les chefs. C'est un moment où eux, ils n'ont jamais le temps, ils sont dans leur cuisine. Et moi, je suis dans mon atelier. Et donc, ce moment, c'est un moment de communion. C'est un moment où tu peux vraiment échanger. Parce que l'avantage de Fourchette, c'est que tu discutes avec des gens qui sont tout aussi passionnés que toi. Donc ça, c'est génial. La deuxième chose, c'est de rencontrer les clients. C'est de voir... Moi, mon problème, ce qu'un restaurateur n'a pas, c'est que mon problème, moi, je ne vois pas mes clients. Je ne suis pas dans le magasin. Et je ne connais pas... quand ils achètent, même si je suis dans le magasin, ils vont acheter les chocolats, ils vont aller à la maison... Ils vont les goûter à la maison, mais tu n'es pas en face à face, il n'y a pas de face to face, tu vois. Et moi, pour moi, un événement comme Fourchette, c'est l'occasion d'aller vers les clients, de discuter avec eux, de comprendre, d'entendre, de dire, de dialoguer. Ça, c'est génial, de sentir leur émotion. C'est pour ça que je fais Fourchette. C'est aussi parce qu'il y a toujours cet esprit un peu de séparation en Belgique, et c'est quand même dommage. C'est un moment où on rencontre quand même et à la fois des chefs wallons et des chefs flamands. C'est de montrer qu'en fait, Il n'y a pas une cuisine flamande ou une cuisine wallonne ou une cuisine francophone et néerlandophone. Il y a une cuisine belge. Et moi, cette Belgique-là, et merci à Yos de m'inviter. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme dessert avec de l'émotion, pas de l'extravagance absolue. Moi, j'ai envie de faire une simple dame blanche. Mais une dame blanche, c'est simple et à la fois, c'est tellement difficile. Les gens ne se rendent pas compte, mais... La crème glacée à la vanille, tu vois, ça doit être la bonne texture. Si c'est trop dur, tu t'ennuies, tu rates tout. Si c'est trop mou, tu n'as pas le temps de la goûter. Tu vois, Paco Jet glace, c'est très sympathique le Paco Jet, mais ça fait des glaces qui fondent trop vite. Donc on va amener une turbine à glace pour avoir une glace qui soit servie à la bonne température au bon moment. La deuxième chose, on va lui donner un peu de modernité quand même à la dame blanche, c'est quoi? On va mettre des meringues qui sont caramélisées. Tu vois, des feuilles de meringue caramélisées comme ça. Je veux entendre ce bruit qui fait cric, comme ça, cric. Et puis, sauce au chocolat. C'est clair qu'on m'attend. Hein. Si Pierre Marcolini ne fait pas une bonne sauce au chocolat, rané, hein, ça ne va pas ça. Hein. Et donc, il va falloir travailler là-dessus. Et on a amené une petite touche, on a amené un twist. On va faire une sauce au chocolat légèrement fumée. En fait, c'est une feuille de cacao qui vient de la région de Cuba et qui est naturellement un petit peu fumée. On a un peu accentué pour avoir ces notes un peu fumées comme ça, mais avec une vanille qui a ce côté un peu épicé qui est là, vanille Madagascar, plus ce côté fumé, ça va être intéressant. Et j'ai dit à mon chef, on est généreux en Belgique, on est des grands gourmands, et on va mettre au milieu, donc les gens vont recevoir leur bol, et on leur a fait un truc un petit peu à part, crème chantilly, tu vois, crème fraîche, vanille. Et si tu veux, tu peux mettre dessus, t'es pas obligé, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre avec. Donc ça va être un dessert de gourmandise. Je ne vais pas essayer de réinventer la planète, je ne vais pas se réinventer, mais j'ai envie que les gens se disent « Oh, moi, j'ai goûté une bonne dame blanche. » Je suis certain que quand, tu vois, j'ai goûté une bonne dame blanche, avec un risque, c'est qu'ils disent « Et je peux encore en avoir un. » Et ça, par contre, je n'ai peut-être pas prévu assez. Je ne sais pas. Smakelijk. Et je suis tellement content d'être chez Fourchette que j'ai signé pour 3 jours. Donc... J'ai même trouvé un petit hôtel assez sympa et donc je vais pouvoir dormir. Mais Gand est une ville extraordinaire. Hein. Le seul souci que j'ai, c'est que tout le monde me dit « Ah, mais tu sais, si t'es à Gand, tu dois aller manger dans tel restaurant. » Je dis « Non, je mange chez Fourchette pendant 3 jours. » Mais ce qui est très bien aussi.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur Satellite Gourmet, visitez le site satellitegourmet.com. À l'avenir, bien sûr, je ferai d'autres podcasts francophones sur la gastronomie. À bientôt!